On est arrivé ici, on a vécu comme ça. Et après, papy faisait pas mal de petits travaux à côté. Comme il avait les jours de repos, il allait faire des jardins à droite et à gauche. Comme ça, ça comme on dit, ça mettait un peu de beurre dans les épinards. Hein. On a toujours fait comme ça. Hein.
Les gens d'ici.
Une série de portraits sonores qui racontent le territoire.
Alors, il est retombé dans la charcuterie, le commerce. Là, au début, avant que Tantin Dédé, qu'il hérite de ses parents, alors ses parents, ils faisaient que les marchés. Et Dédé, il a continué à faire comme ses parents. Après, ils ont vendu la charcuterie, et Dédé, il a gardé qu'à faire les marchés. Hein. Il fait que les marchés. Dédé, il fait que les marchés maintenant, voilà. Et voilà, et maintenant, il est à la retraite aussi. Mais c'est comme ça qu'on a vécu. Ah, notre vie, elle aurait été plus belle, hein.
Aujourd'hui, dans Les gens d'ici, nous rencontrons celle qui assiste de près à la croissance démographique du territoire. Celle qui est là quand une personne devient parent. Mais aussi celle qui accompagne ses patientes tout au long de leur suivi gynécologique et qui offre un espace d'écoute bienveillante pour les femmes qu'elle reçoit dans son cabinet. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous écoutons une sage-femme. Magali Rock est sage-femme libérale à Millau. Elle nous raconte dans cette émission son quotidien, le statut et la condition de sage-femme aujourd'hui dans un territoire semi-rural comme le Sud Aveyron.
Bonjour Magali.
Bonjour Sophia.
Donc tu es sage-femme, tu exerces à Millau. Et pour commencer cet entretien, j'ai envie de te demander qu'est-ce qui t'a donné envie, en premier lieu, de faire ce métier, de devenir sage-femme ?
Je ne saurais pas dire s'il y a eu un instant, un moment qui m'a donné envie. Je pense que j'avais une mère assistante sociale et j'avais envie d'aider les gens. J'ai toujours été attirée par le féminin, les femmes, la cause féministe aussi. Et c'était plus ce volet médical qui m'intéressait et puis ce volet social d'accompagnement, de soutien et d'aider aussi les femmes à s'approprier leur corps, à être indépendantes et... Voilà, je pense que c'est un tout, mais il n'y a pas de moment qui m'a dit où je me suis dit je veux faire ça.
Et donc, comment s'est passée ta formation? Par exemple, où est-ce que tu as fait tes études et combien d'années d'études il faut pour devenir sage-femme?
Alors, moi, du coup, j'ai fait mes études à Toulouse. J'ai passé le concours de médecine parce qu'au moment où j'ai fait mes études, il fallait passer le concours. Je ne l'ai pas eu du premier coup, donc j'ai redoublé, comme beaucoup d'étudiants dans cette voie. Après avoir eu le concours, j'ai intégré l'école de sage-femme de Toulouse pour une durée de 4 ans. J'ai effectué essentiellement des stages en fait à Toulouse au cours de mes études ou autour de Toulouse et voilà.
Et après donc qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvée à exercer à Millau ?
C'est un peu le hasard parce que après mes études j'ai travaillé un peu en Guyane française, en région parisienne aussi, un petit peu à Toulouse. Et après j'étais en fait dans une phase de ma vie où j'avais arrêté de travailler par choix pour prendre un peu de temps et où je faisais du vélo en itinérance en France et en Europe. Et puis j'avais envie de me poser et de retravailler un petit peu et j'ai vu cette offre sur Facebook d'une sage-femme qui cherchait une remplaçante à Millau et je me suis dit ça a l'air bien Millau donc je vais aller voir.
Est-ce que tu te rappelles de la première fois où tu as accompagné une personne dans l'accouchement ou est-ce que tu as un souvenir marquant lié à ta profession? Ça peut être les deux aussi.
Les premiers accouchements, je les ai vécus dans mes premières années d'études en tant qu'étudiante où à ce moment-là, j'étais pas du tout avec la sage-femme ou le gynéco. Je me souviens très bien d'un accouchement qui était pas du tout agréable à vivre en tant qu'étudiante où j'étais, moi, jeune étudiante sage-femme, j'étais en première année, donc j'étais là juste pour faire les soins pour le bébé, j'étais pas du tout là pour m'occuper de la femme, c'était pas encore de mon niveau et c'était dans une clinique où j'ai vraiment vécu un accouchement très violent avec une gynécologue qui enfilait des grosses bottes comme un boucher, qui mettait des grands gants et qui était très violente verbalement en tout cas avec une patiente et moi ça m'avait vraiment saisi la position du coup de cette femme qui accouche vraiment comme un être de chair et pas du tout pris dans sa globalité, pas du tout accompagnée, il n'y avait pas de bienveillance et ça m'avait beaucoup marquée. Mais après, j'ai eu de très beaux souvenirs en tant qu'étudiante, de très bons. Et après, le premier accouchement que j'ai fait en tant que vraie sage-femme, quand j'étais diplômée, je m'en souviens très bien, parce que c'était dans mon premier poste en Guyane française, dans une ville qui s'appelait Saint-Laurent-du-Maroni, où il y avait beaucoup de populations qu'on appelle bushinengues. Donc, c'est des populations qui ont fui l'esclavage, issues du coup des populations de l'Ouest africain, qui sont encore assez ancrées dans des traditions. Toutes des femmes qui accouchent très vite, qui ont beaucoup d'enfants, qui accouchent sans péridurale. Et je me souviens très bien où cette patiente que je prenais en charge, j'arrive, elle m'appelle et en fait, elle accouchait déjà toute seule et le bébé était né quand je suis arrivée. Donc, pour ce premier accouchement de sage-femme, j'ai pas servi à grand-chose au plan technique en tout cas, mais c'était un bon enseignement sur aussi la capacité des femmes à accoucher seules et elles savent très bien faire.
Donc, aujourd'hui, tu exerces en libéral dans ton cabinet que tu partages avec une autre sage-femme, du coup Julia Couffin, et tu accompagnes aussi les femmes qui choisissent d'accoucher un plateau technique, ce qu'on appelle, à l'hôpital de Millau. Donc qu'est-ce que cela veut dire concrètement ?
Alors c'est une spécificité en effet dans notre pratique de sage-femme installée en libéral, toutes ne le font pas, mais avec ma collègue en effet on fait ce qu'on appelle de l'accompagnement global, c'est-à-dire qu'on propose aux couples qui le souhaitent de les accompagner pendant la grossesse, comme toutes les sages-femmes le font, mais aussi pour le moment de l'accouchement, où nous, on va se tenir disponible pour être présente au moment de la naissance et en fait les accompagner pour leur accouchement, mais dans la structure de l'hôpital de Millau. On a une convention en fait avec l'hôpital de Millau qui nous permet de bénéficier des lieux, de la salle de naissance et des salles de naissance de leur structure où on peut tout à fait venir avec nos patients pour leur accouchement. On bénéficie du coup du matériel et notamment d'une salle qu'on appelle nature, une salle où il y a une grande baignoire, un grand lit qui est propice à l'accompagnement des patientes qui souhaitent accoucher sans péridurale, parce que nous, avec Julia, on va plutôt les préparer pour ce type d'accouchement. Il faut que ces couples viennent avec ce projet-là. Et donc, on leur offre une préparation peut-être un peu plus spécifique. Et on est là avec eux pour la naissance l'une ou l'autre.
En tant que sage-femme, tu assures la surveillance et le suivi médical de la grossesse. Mais pour expliquer un peu d'autres facettes de ton métier, au-delà de la période de la grossesse, vous pouvez, en tant que sage-femme, effectuer le suivi gynécologique d'une personne tout au long de sa vie. Vous pouvez exercer une IVG médicamenteuse et prescrire aussi des moyens de contraception sous toutes leurs formes. Est-ce qu'il manque des choses à cette liste, déjà ?
Je pense que c'est assez complet. On pourrait peut-être ajouter la partie de la rééducation du périnée chez les femmes qui viennent d'accoucher, mais aussi des fois chez des femmes un peu plus âgées. Tu l'as dit, tout le suivi gynécologique de prévention, avec aussi les frottis pour le dépistage du cancer du col. Et puis après, en fait, on a chacune nos casquettes et nos formations qui permettent d'affiner un petit peu nos pratiques. Moi, par exemple, je fais de l'acupuncture. Il y a des sages-femmes qui font de l'échographie, il y a des sages-femmes qui font de la sophrologie, qui font de l'autonomie. Et puis, il y en a aussi qui choisissent de se spécifier dans certains domaines et qui font que du suivi gynéco ou que du suivi de grossesse. Il y a aussi des sages-femmes en centre hospitalier qui travaillent dans les centres d'aide médicale à la procréation. Et donc, ont des pratiques très spécifiques. Puis, une pratique hospitalière un peu plus classique autour des naissances. Mais voilà, en effet, on a plein de casquettes. On nous en donne aussi de plus en plus. Là, on peut aussi faire le suivi des nouveau-nés jusqu'à un mois et on peut vacciner les enfants. Donc voilà, on nous donne plein de casquettes. Je pense parfois, des fois, un peu pour pallier à des manques de professionnels dans certains domaines de la santé, malheureusement. Donc voilà, c'est un peu un jeu parfois un peu compliqué où il faut aussi être à jour partout, se former un peu dans tous les domaines. Et parfois, c'est compliqué d'être très compétent partout.
Donc dans quel cas on peut consulter une sage-femme et dans quel cas on serait orienté ou vous-même vous orienter vers un ou une gynéco ou d'autres professionnels de santé?
Alors, si on a déjà des problèmes de santé personnellement complexes liés à sa santé de femme, par exemple des pathologies au niveau mammaire, on a eu un cancer du sein dans sa vie, ou au niveau gynécologique, on a des soucis de fertilité qui ont été déjà dépistés. Par exemple, ça, c'est quelque chose qui induit une surveillance, un suivi plutôt avec un gynécologue ou une gynécologue. Après, nous, on peut en fait faire tout le suivi gynécologique de prévention chez des femmes qui sont en bonne santé. Et on est aussi à même de voir et de dépister que dans certaines situations, on n'est plus dans la physiologie, on n'est plus dans quelque chose de normal, mais on est dans la pathologie. Et à ce moment-là, on est à même d'adresser vers un autre professionnel. Mais parfois, pour les femmes, c'est un petit peu dur de savoir est-ce que je dois aller voir une sage-femme ou un gynéco. Déjà, parfois, juste par téléphone, on peut adresser si besoin. Et puis, en consultation, on prendra sinon le temps de faire le point et d'adresser dans un second temps si besoin.
Dans ton cabinet, quelles sont les raisons principales pour lesquelles les patientes viennent te voir ?
Bon, les suivis de grossesse, forcément, ça, c'est une grande part de patientes. Après, des suivis gynécologiques, on en a beaucoup pour la question de la contraception. Est-ce que j'arrête ma pilule ? Est-ce que je mets un stérilet ? Faire le frottis. Puis, j'ai des cycles irréguliers où j'ai eu des saignements, où j'ai eu des douleurs. Donc, c'est plutôt ça au niveau gynéco. Et puis aussi, on a une partie de patientes qui viennent pour des troubles au niveau du périnée. Ben, j'ai des douleurs pendant les rapports, des fuites d'urine quand j'ai fait du sport. Voilà, c'est globalement ça comme motif de consultation. Et puis, au final, même si on a tendance à se concentrer sur l'aspect technique du motif de consultation, il y a une grande part de discussion, de psychologie où on va essayer de prendre le temps de connaître la femme et pourquoi ce trouble y vient ici, dans quel contexte aussi émotionnel, social et de la patiente pour essayer de lui donner des réponses globales.
Du coup, comme tu en as parlé, j'ai envie de te poser maintenant la question. Quand les patientes et patients viennent te voir, en tout cas c'était mon expérience, tu poses à la première consultation la question « Est-ce que vous avez été victime de violences ou d'abus ?» Et voilà, cette question ne m'avait personnellement jamais été posée dans un cabinet médical. Quel est ton rôle en tant que sage-femme quand, par exemple, une personne répond oui ?
Alors déjà, si elle me répond oui, je vais lui dire que je la crois déjà et qu'elle a le droit de le dire et qu'elle peut le dire et que sa parole est complètement légitime. Et puis, je vais voir avec elle si elle a envie d'en parler plus. Parce qu'il y a aussi des gens qui ne sont pas prêts à ce moment-là à déposer à cet endroit tout ça. Peut-être qu'aussi on ne se connaît pas assez et on en reparlera un peu plus tard et ce n'est pas grave. Si on a envie, si la personne a envie d'en parler, ben peut-être déjà juste d'en parler, de voir aussi dans quel rapport elle est avec cet événement de sa vie aujourd'hui, comment elle est avec ça, qu'est-ce qu'elle a mis en place pour mieux le vivre. Et puis l'informer sur des choses strictement législatives aussi, sur le droit à porter plainte, pourquoi. Donc essayer peut-être de l'accompagner dans des démarches ou lui donner des informations. Et déjà lui laisser la porte ouverte pour lui dire que c'est bien qu'elle ait pu en parler, que c'est pas normal ce qui lui est arrivé. Et qu'on va essayer de faire en sorte que cet événement l'empêche pas de continuer sa vie le plus sereinement possible, même si forcément c'est quelque chose qui va la marquer très fort.
Donc tu en as parlé un peu au début, tu as des valeurs féministes. En parallèle de ton métier de sage-femme, tu es aussi adhérente et bénévole au planning familial de Millau, qui est une association féministe et d'éducation populaire. Est-ce que cet engagement est venu de ta profession de sage-femme ou est-ce que ça datait d'avant ? Ça s'est peut-être accentué quand tu es devenue sage-femme ?
Ouais, je pense que c'était déjà un petit peu là avant, ce côté féministe. Après, c'est quelque chose que j'ai cultivé et que j'ai retrouvé aussi au cours de mes études avec mes collègues de promotion, où on était assez engagés. Et aussi, on nous a appris quand même, pendant mes études, j'ai quand même la sensation qu'on a pu réfléchir sur cette thématique. C'était quand même inclus dans notre parcours, plus ou moins, mais aussi parce qu'on avait envie de creuser dans cette voie-là. Donc je pense que c'est venu avant de mon éducation, de les gens autour de moi qui ont gravité, qui m'ont donné le goût de cette lutte. Puis après, forcément, mon métier me conforte dans cet engagement, puisque j'ai envie aussi que les femmes prennent leur autonomie, qu'elles puissent comprendre ce qui leur arrive, qu'elles puissent ne pas subir des décisions qu'on leur imposerait. Puis je suis persuadée que dans une sphère peut-être plus obstétricale liée à l'enfantement, je pense que si déjà on arrive serein, qu'on vit une grossesse sereine avec de la bienveillance, ça va aussi impacter le rapport qu'on aura à son enfant et donc peut-être l'éducation aussi qu'on va lui donner. Et je suis persuadée qu'un enfant qui a de l'amour, c'est aussi une meilleure personne. Et c'est un peu utopiste de dire ça, mais quand même, j'y crois fort. Et donc un garçon, une fille aimée, qui a été éduquée avec, avec des valeurs sur ce plan-là intéressantes. C'est aussi peut-être un violeur en moins ou une personne autoritaire et, ou un dictateur en moins dans le monde. Donc voilà, je vois très très loin, mais je pense qu'à ma petite échelle, je peux peut-être essayer d'avoir une portée sur cette longue échelle du temps.
C'est beau. Tout à l'heure, tu disais que les sages-femmes ont beaucoup de casquettes et que des fois, c'est peut-être aussi parce qu'il y a un manque de professionnels dans ce secteur, dans les milieux médicaux. Quelle est la situation des sages-femmes à Millau ou des maternités de Millau? On pourrait parler aussi de celle de Sainte-Afrique qui menace d'être fermée aussi.
Je peux dire un mot en effet sur les maternités, même si je ne peux pas parler en leur nom. Hein. C'est sûr que le territoire du Sud Aveyron, c'est quand même un grand territoire où il y a une population qui est plutôt vieillissante, mais où il y a quand même des naissances et où du coup au niveau du territoire on décide, et là il est décidé de fusionner les deux maternités. Alors c'est pour des raisons peut-être d'attractivité, où on veut créer une nouvelle structure pour attirer un peu plus de gynéco, de médecins, et en effet ça c'est une grosse difficulté du territoire, on manque de gynéco, on manque d'anesthésistes, de pédiatres, et ça a pu causer parfois des fermetures momentanées pendant un jour ou deux de la maternité de Millau ou de Sainte-Afrique, parce qu'il n'y avait pas d'anesthésiste pour assurer la continuité des soins et la sécurité des patients. Donc ça, c'est un vrai problème. Et c'est sûr que par rapport à ça, il faut pallier à l'attractivité. Il faut qu'on ait plus de gynéco et de pédiatres pour que ça puisse bien fonctionner. Par ailleurs, voilà, il y a aussi une volonté de fermer des petites maternités, parce qu'on considérerait que c'est dangereux, des petites structures où il y a peu d'accouchements. Je pense pas que c'est vrai, c'est mon opinion. Après, ça répond aussi à des obligations territoriales d'offrir des soins à des patients au sein de leur territoire, ce qu'on va quand même pas faire complètement, parce que je pense à des endroits comme Camarès ou des parties du sud Aveyron qui sont assez loin de Millau et où pour les gens vont faire peut-être plus d'une heure de route pour venir accoucher à la maternité de Millau ou une consultation en urgence gynécologique. Ça me semble long comme trajet. Je pense que ça pourrait fonctionner, des petites maternités, mais voilà, il y a une volonté politique et publique de fermer ces structures quand même. Après, les sages-femmes en Sud-Aveyron exercent dans des petites structures où il y a encore des conditions de travail, en tout cas dans l'accompagnement des patients, qui sont, je pense, relativement bonnes. Après, les difficultés, c'est quand même des fois un manque de personnel, de sages-femmes, mais essentiellement de médecins qui, des fois, peuvent amener des fermetures qui sont problématiques.
Et en effet, les sages-femmes se sont mises en grève, alors c'était en 2021, mais je pense que les revendications sont tout aussi actuelles, comme tu viens de le dire aussi. Elles parlaient de revalorisation de leur métier, d'avoir des conditions de travail à hauteur d'une femme, une sage-femme. Et c'est vrai aussi que même pendant les études, il a été calculé que 60% à peu près des personnes en études de sage-femme font des burn-out et que 20% quittent leurs études avant la fin. Est-ce que toi, un cabinet libéral à Millau, tu ressens cette surcharge de travail? Est-ce que tu sens que ton métier n'est pas assez valorisé?
Alors moi, personnellement, je pourrais ressentir au niveau de surcharge de travail plus l'aspect lié au manque de professionnels sur notre territoire, où on manque de gynéco et où du coup, je ne peux pas proposer une prise en charge aussi bonne et aussi adaptée à certaines de mes patients comparé à une sage-femme qui exerce en région parisienne, par exemple, où il y a plein de professionnels partout. Ça, pour moi, c'est la plus grosse difficulté, selon moi. Après, il y a forcément une question salariale aussi, où nos actes et toutes les compétences qu'on nous rajoute ne vont pas toujours et ne vont pas trop avec une augmentation salariale et une revalorisation de nos actes. Donc ça, c'est un problème. Et pour rejoindre et reparler de ce que tu disais sur les conditions aussi des études, l'arrêt des études, c'est aussi, je pense, beaucoup lié au fonctionnement des grosses structures hospitalières où, en général, quand on est étudiant, on fait nos stages à ces endroits-là, où il y a beaucoup d'activités, où on prend les gens en charge pas forcément de façon confortable pour notre pratique, où on est un peu mis sous pression, il y a beaucoup de stress, où parfois on sent qu'on met en danger les patients parce qu'on les accompagne pas correctement, parce qu'on manque de personnel, et où là, du coup, pour les sages-femmes, c'est très très dur de travailler dans ces conditions parce que il y a beaucoup trop de stress, et là, on fait plus du tout notre métier correctement, et c'est dangereux. Donc là, c'est clair, un gros problème aussi hospitalier, de toute façon, en ce moment, où les conditions sont vraiment pas bonne pour offrir un vrai service public à la population et accompagner aussi les femmes dans ces moments de vie qui sont quand même très très importants pour elles.
Justement, j'aimerais revenir un peu sur le cœur de ton métier. Comment vis-tu le moment de l'accouchement, par exemple, d'une patiente que tu suis ? Je peux imaginer que pour toi, ça reste un acte médical et technique et que tu dois faire attention à plein de choses, alors que pour les parents, c'est un moment, comme tu disais, très important de leur vie, où leur vie va changer radicalement.
Bah alors c'est vrai que oui, quand je suis avec un couple pour un accouchement, j'ai toujours des choses en tête. Est-ce que le placenta va sortir normalement? Est-ce que les saignements sont normaux? Est-ce que le rythme du bébé est normal? Comment la tête arrive? Comment la patiente gère ses contractions? Est-ce qu'elle s'arrête? Est-ce que le col se dilate normalement? Il y a plein de choses auxquelles on pense et qu'on surveille, mais c'est des choses qu'on a appris, donc il y a toujours un peu peut-être de stress ou de questionnement parfois, mais c'est des aspects qu'on maîtrise globalement, même si des fois on a des questions, des hésitations, et ça c'est normal. Après, il y a aussi forcément beaucoup d'émotions, et ça va aussi dépendre surtout des couples aussi, parce que parfois une naissance elle dégage plus d'émotions. Alors c'est pas un jugement sur les couples, voilà, des fois c'est plus fort, on peut pas trop l'expliquer, parce qu'on sent beaucoup plus d'émotions, on sent plus d'amour, plus de surprises chez les gens. Ça va aussi dépendre du lien qu'on a avec ce couple. Il y a des gens avec qui on a un lien qui est sympa, qui est courtois, mais où on ne sent pas une connexion plus que ça. Et donc forcément, à ce moment-là, pour nous, c'est moins fort. Mais en même temps, on n'est pas là pour vivre des émotions fortes. On est là pour les accompagner, être à notre juste place et leur offrir l'espace et pour vivre leur instant, parce que c'est le leur. Donc finalement, pour moi, ce n'est pas si important. Mais c'est clair que des fois, on est un petit peu embarqué avec eux, et c'est agréable.
Comment tu réagis, par exemple, quand tu vois l'enfant grandir et que tu vois que la personne garde un lien avec toi en dehors de son accouchement?
Pour le moment, c'est vrai que moi, dans ma pratique, j'ai surtout avant travaillé en hospitalier, donc je revoyais pas trop les gens. Je me souviens d'une patiente en Guyane qui m'écrivait toujours des textos, qui m'envoyait des photos de son enfant, et donc c'était toujours à chaque fois hyper sympa pour moi. Après, des fois, ça m'arrive, et dans ces situations-là, de pas me souvenir, parce que j'avais eu beaucoup de patients que j'avais accompagnés, donc c'est un peu gênant des fois. Et après, là, à Mio, c'est clair qu'on a un rapport un peu plus proche avec ces patients qu'on suit dans le cas du plateau technique, où on rentre plus aussi dans leur intimité et tout ça. Et donc forcément, ben c'est... Enfin, je me souviens à chaque fois de l'accouchement, je me souviens à chaque fois d'anecdotes ou de leur grossesse, de comment ça a été vécu. Et souvent, on a des vécus différents entre les patients et nous, et c'est tout à fait normal. Mais c'est chouette de suivre, et surtout de suivre l'évolution de la femme après cette naissance, comment cette naissance l'a marquée, l'a transformée aussi un petit peu. Donc ça, c'est chouette.
J'ai aussi envie de te demander, qu'est-ce que ce métier t'apprend sur le territoire, par exemple, sur le profil peut-être, ou les conditions des personnes qui viennent te voir?
Je trouve que le profil des gens que je rencontre au travail, ils sont très variés, et c'est ça qui est très bien. Il y a les personnes un peu plus âgées qui ont un mode de vie un peu rural, assez terroir et classique. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont un engagement aussi écologiques, militants, et qui se questionnent beaucoup sur leur mode de vie, et ça c'est intéressant. Moi c'est ça aussi que j'aime, c'est la variété de tous ces gens qui sont tous différents. Après, ça me montre que le territoire Miavois, c'est pas un territoire riche, que les gens sont quand même assez de gens pauvres, il y a aussi de la misère sociale à Millau.
Merci. Est-ce que tu veux ajouter des choses ?
Déjà te remercier, Sophia, de m'avoir fait cette interview. Et puis, encourager les gens à s'occuper d'eux, à connaître leur corps, à poser des questions pour qu'ils puissent comprendre ce qui se passe. Et puis, je peux que encourager les gens à faire ça pour s'approprier leur santé aussi, leur santé de femme, et pas être complètement dépossédée de son corps. Ça, c'est aussi le premier pas. Quand après, peut-être, on va vivre aussi un accouchement, une naissance, si on est acteur déjà de son corps, de sa vie, qu'on est conscient de tout ce qui se passe, pour d'autres moments de la vie, ça va être important.
C'était Magali Roch, sage-femme libérale à Millau, aujourd'hui dans Les gens d'ici. Après l'interview, Magali a souhaité me préciser que les sages-femmes peuvent effectuer des IVG médicamenteuses jusqu'à 7 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire d'absence de règles. La musique, c'est Tour de Fleuve et Antonin Volson, choisi par notre invité. Vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur notre site internet radiolarzac.org et Les gens d'ici revient le mois prochain avec un nouveau portrait radiophonique.